Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est un peu plus de 11h, 11h15, passé de 2 minutes, on est ravis d'être avec vous pour ce nouvel opus du sens de l'immobilier avec nos partenaires de Procivis où, je vous le rappelle, nous décryptons l'actualité du logement et nous essayons de donner très largement la parole pour essayer finalement de vous donner des clés de lisibilité dans cette complexité que représente aujourd'hui la transformation de la ville et notamment l'accès au logement. Pour tous, c'est très, très important comme sujet. On va évoquer, si vous voulez bien les amis, pour ce nouveau numéro du sens de l'immobilier, ce penser du projet de loi sur le logement présenté par Guillaume Kasbarian, le cinquième ministre du logement, quand même, après 4 gouvernements et 2 mandats présidentiels. Verront-on ou pas le bout du tunnel pour cette demande criante qui est celui du logement des Français ? Aujourd'hui, pour en parler, nous avons Yannick Borde qui est sur le plateau. Bonjour Yannick.
Bonjour Sylvain.
Président du réseau Procivis, et également, vous êtes un élu local, vous avez cette double casquette, vous êtes maire de Saint-Berthevin dans la banlieue de Laval, où d'ailleurs, je suis venu vous voir il n'y a pas très longtemps à Laval, avec le maire Florent Berco. Merci d'être avec nous. Également, quelqu'un que je connais bien, puisqu'elle est présidente de l'OPA de Sénart, avec qui j'ai eu le plaisir de dialoguer et d'échanger, notamment pour les 50 ans de l'établissement public d'aménagement, qui est le projet d'aménagement, un des projets d'aménagement les plus importants d'Île-de-France. France. Elle est également maire de Savigny-le-Temple. C'est Marilyn Picherie.
Bonjour.
Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté de venir sur le plateau. Tout d'abord, première question, en tant que président de Procivis, membre de l'USH, parce que l'Union sociale pour l'habitat, parce que vous avez cette casquette, même si vous assemblez un réseau de promoteurs, vous êtes très axé sur le logement et le logement social des Français. Yannick, et pour cause, vous êtes aussi un élu préoccupé de l'intérêt général. Je voudrais vraiment avoir votre action sur les mesures proposées dans le projet de loi, notamment l'intégration des logements intermédiaires dans les quotas et ces rues. C'est un vrai sujet.
Alors c'est un vrai sujet avec quand même, il faut avoir à l'esprit que depuis quelques mois, la question du vous excuserez ma voix un peu éraillée.
Oui, vous avez...
la question du logement intermédiaire, en fin de compte, elle est un peu mise un peu à toutes les sauces, c'est-à-dire qu'on... Elle pourrait remplacer le logement social. Ça a été aussi la volonté de faire revenir les investisseurs institutionnels en LLI dans la perspective de la fin des outils de défiscalisation actuellement baptisés Pinel. Voilà, donc c'est un sujet, le LLI, qui est sur la table depuis quelques mois maintenant. Ce qu'il faut comprendre dans le projet de loi, je pense en tout cas nous, c'est ce qu'on est prêt à défendre, c'est que ça ne peut pas être un substitut intégral au logement locatif social. Et que ça ne doit pas être la prime aux mauvais élèves de la loi SRU. C'est-à-dire que c'est ce que des échanges qu'on a eus avec le ministre et ses équipes. C'est que si, dans une période compliquée, ça permet de produire un petit peu plus que ce qu'on serait capable de faire si on était sans cet accompagnement-là, et que ça permet dans certaines communes qui sont plutôt sur des volontés de rattrapage que sur des compensations de sanctions, sur l'obligation de logement locatif social, nous, on ne s'y opposera pas, sous réserve qu'il y ait quand même un contingentement qui soit assez réduit et assez modeste. C'est un peu la position aujourd'hui de l'USH, en tout cas d'une partie de l'USH. Je rappelle d'ailleurs qu'on était quelques familles USH, sauf la famille des offices HLM, a signé l'accord LLI il y a quelques mois, en rappelant bien que ça ne pouvait pas venir se substituer intégralement à la production de logement social, où les besoins sont colossaux, en Ile-de-France, par rapport au salon auquel on est aujourd'hui ce matin, mais également sur des territoires plus détendus. Vous savez que je combats ce terme-là depuis plusieurs années maintenant, où le besoin de logement est criant quasiment partout et le besoin de logement social est partout. Donc le LLI ne doit pas être le substitut intégral au LLS. Ce n'est pas possible.
Marilyn ?
Moi, je suis complètement d'accord. Effectivement, le LLI ne peut pas être le substitut au logement social. Et en tant que maire d'une ville où on a plus de 35% de logements sociaux, le fait de se dire aussi que le LLI pourrait venir remplacer le logement social, en tout cas le pourcentage, ou permettre à des communes d'arriver à ce pourcentage, est quand même un peu inquiétant en termes d'équilibre sociologique, parce que nous avons accueilli dans le logement social beaucoup de personnes, et aujourd'hui, ce que ne pointe pas ce projet de loi, c'est la paupérisation dans le logement social. Nous avons une vraie paupérisation dans le logement social. Et puis, ce que ne pointe pas aussi ce projet de loi, c'est comment faire avec les dossiers les plus paupérisés qui viennent en fait de l'État déconcentré très souvent et d'un certain nombre de réservataires étatiques. C'est vraiment quelque chose à souligner. Nous, les maires, on a très peu de possibilités. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse quand même dans cette loi, c'est le fait que le maire puisse présider la commission d'attribution. Moi, je suis assez favorable, avec toutes les garanties nécessaires pour qu'il n'y ait pas, évidemment, de ce que certains appellent, enfin ce que certains craignent du favoritisme, hein, mais en revanche, à condition qu'on ait un vrai pouvoir. Parce que si c'est pour présider, faire fonction d'eux sans pouvoir, aucun intérêt. Ce qui est réel aujourd'hui, c'est que le maire n'a pas de pouvoir suffisant pour pouvoir équilibrer sociologiquement ces populations dans le logement social. Moi, je serais même favorable lorsque des villes ont vraiment accueilli beaucoup de logements sociaux et sont loin du pourcentage réclamé par la loi SRU, contente aussi des expériences. Enfin, moi, c'est quelque chose que je suis en train de travailler avec la préfecture de Seine-et-Marne, contente des expériences sur une neutralisation à un moment de certains quartiers où on pourrait essayer de remonter la mixité sociale en accueillant d'autres types de populations. Alors, ça nécessite bien évidemment que les bailleurs sociaux fassent les travaux nécessaires. Et le logement social, c'est la nécessité aussi pour les bailleurs sociaux de faire correctement les travaux de réhabilitation, mais des travaux forts. Encore faut-il qu'ils en aient les moyens. Et ça, c'est un autre questionnement. Aujourd'hui, on peut construire du logement social qui ressemble très bien à du logement en accession. Par exemple, à Savigny-Temple, au niveau des Lucioles, on a un programme où dans le même groupe d'immeubles, vous avez de l'accession à la propriété et du locatif social, et notamment de la reconstruction, de la rénovation urbaine. Par contre, ce que l'on doit vraiment souligner, c'est que si on continue tel que nous sommes aujourd'hui, à ne pas laisser de pouvoir aux maires sur la possibilité d'équilibrer sociologiquement leur ville, à continuer d'aller dans le mur avec des critères d'attribution qui sont assez ahurissants, qui font que finalement les populations les plus paupérisées vont toujours dans les mêmes lieux, à faire que certaines villes, et c'est là le danger quand même du LLI, c'est-à-dire que si on permet aux logements intermédiaires d'être trop rentrer dans le pourcentage des logements sociaux, ça veut dire qu'on a des communes qui n'en font pas. Et en fait, on va toujours avoir un déséquilibre entre les communes qui ont beaucoup de logements sociaux et celles qui n'en ont pas. Et derrière, vraiment des questionnements sur les politiques publiques. Donc moi, je pense qu'il faudrait vraiment d'abord interroger les maires, toute obédience politique confondue, toute taille de ville confondue, ceux qui sont au-dessus du taux de la loi SRU, ceux qui sont en dessous, pour comprendre aussi les problématiques contextuelles. Parce qu'en fait, vous avez des villes, par exemple, qui voudraient bien aujourd'hui construire du logement social, mais elles n'ont plus de réserve foncière. C'est un vrai sujet. Moi, j'ai une ville à côté de chez moi, vers Saint-Denis, ils n'ont plus de réserve foncière quasiment, donc ils ne peuvent plus construire. Voilà. Et puis aussi, rendre hommage aux maires qui construisent. Il y a des maires qui construisent, mais il y a des maires qui refusent de construire. Question. Si des maires acceptent de construire et d'autres refusent de construire, on fait quoi? Et là, c'est la présidente de l'EPA qui parle. Et
oui.
Sur le territoire de Sénart, on a des maires qui...
qui ne veulent pas construire.
En tout cas, pas suffisamment pour pouvoir équilibrer. Parce qu'on ne peut pas parler simplement de l'équilibre du logement au niveau d'une ville. Je pense qu'il faut élargir. C'est un équilibre territorial. Et en plus, en ce moment, on n'a pas de chance parce que, évidemment, le contexte de l'immobilier ne nous aide pas du tout à construire.
C'est très clair.
Et un dernier sujet, c'est aussi peut-être travailler des partenariats différents avec les promoteurs. Parce que quand on veut équilibrer sociologiquement une ville, on dit, par exemple, on va faire de l'accession à la propriété. Très bien. Assis sur quoi? Parce que, en fait, on a des copropriétés dégradées. On parle souvent du logement social, mais on oublie souvent les copropriétés dégradées. Et pour un maire, c'est plus complexe, parce qu'on n'a plus un seul interlocuteur. On a une multiplicité de petits propriétaires qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir participer à la restauration de leur copropriété. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et évidemment, c'est souvent dans les villes déjà un peu paupérisées. Sinon, on peut dire que ce n'est pas drôle, hein, si ce n'est pas dans ces villes-là. Voilà. Donc je pense que c'est beaucoup plus contextuel, c'est territorial, c'est contextuel. Il ne faut pas s'arrêter à une ville sur un territoire. Je pense qu'il faut réfléchir différemment. Souvent, on réfléchit à l'aune d'une ville. Et je pense que c'est insuffisant aujourd'hui pour répondre aux besoins du logement. En tout cas, il y a un besoin criant de logement. Il y a des gens qui attendent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire beaucoup plus, et pour lesquels il n'y a pas de logement, vu. Donc ça, c'est plus possible, c'est humainement pas possible. Et en Île-de-France, la demande de logement, elle est cruciale, parce que finalement, est-ce qu'on doit toujours parler de logement ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'habitat ? L'habitat, c'est plus large. Le logement, c'est assis aussi sur des politiques de services publics, sur aussi de l'emploi autour. Et par exemple, en grande banlieue, tant que nous n'aurons pas, et sur le territoire de Sénart, une tête de pont en matière d'industrie, on aura du mal à créer vraiment une politique de l'habitat et on restera stricto sensu sur le logement, ce qui, à mon avis, est trop restrictif.
Extrêmement intéressant. Réaction ?
Plusieurs. La première, alors, sans doute la solidarité des maires, mais sur la question de l'attribution des logements sociaux, donc moi, je partage avec la prudence qu'il faut avoir.
C'est pas clair dans le texte. Hein.
C'est pas très clair dans le texte. C'est sur les premières attributions. Ça serait les opérations récentes, etc.
Que vous ayez un réel pouvoir de présidence de la commission.
A priori, c'est les opérations de premier peuplement. Bon, c'est assez restreint quand même.
Et alors, je voulais employer ce terme-là, de mot de peuplement, qui est un mot qui est parfois compliqué à employer, mais c'est vrai que dans toutes les villes, hein, moi je suis maire d'une ville qui est soumise à l'Ouest SRU, 8000 habitants, on est dans une région qui n'a pas du tout les mêmes situations, les mêmes problématiques que l'Île-de-France. Mais on voit bien que la tendance quand même, malgré tout, si on n'est pas attentif, c'est qu'on concentre dans des mêmes endroits des gens qui cumulent des difficultés identiques. Donc c'est ça qu'il faut combattre dans la mixité. Après, il y a les statuts de locataires, de propriétaires, etc. Mais déjà, si on arrive dans cette notion de peuplement à faire en sorte que on ne concentre pas au même endroit des populations qui concentrent les mêmes problèmes, je pense qu'on fait une partie du chemin. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, sur la répartition entre les communes, moi, vous savez que je suis un combattant assez farouche du zonage.
Oui.
Alors, non pas sur le principe pur du zonage, mais sur le fait qu'en fin de compte, avec le zonage, on clive. Quand vous faites une ville-centre qui est zonée d'une façon, une première couronne qui est zonée de l'autre, voire quelques communes de première couronne zonées d'une façon et puis d'autres de première couronne zonées d'une troisième façon, en termes d'aménagement du territoire, c'est un peu moyen quand même. C'est les mêmes habitants, c'est les mêmes profils, c'est les mêmes populations, c'est les mêmes entreprises qui cherchent des habitants. Donc on est, nous, en train d'essayer de pousser à cette question de l'évolution du zonage. On voit bien que la pression... Alors, si le zonage, c'est à la fois... Il faut d'abord se rappeler que s'il a été mis en place il y a presque 20 ans maintenant, c'est parce que notre profession a parfois dérapé dans sa production et qu'il a assez peu évolué dans son
raisonnement. Quand vous dites dérapé, ça veut dire...
C'est-à-dire qu'il y a eu au milieu des années 2000, notamment avec un certain nombre de dispositifs fiscaux. Il y a les exemples de Montauban ou de choses comme ça, des villes qui sont célèbres. Un certain nombre de promoteurs, notamment ces promoteurs issus de la région de Toulouse, qui sont allés inonder des outils de défiscalisation un peu partout dans des endroits où il n'y a pas de marché ou pas suffisamment de marché. Donc c'est à partir de là qu'on a fait du zonage. Sauf que le zonage, c'est à la fois c'était une réponse à une déviance, on est assez d'accord là-dessus. Il a assez peu évolué depuis, c'est aussi aujourd'hui un enjeu extrêmement politique, parce que tout le monde se bat pour essayer de monter un peu sa zone, parce que si vous ne le faites pas, les promoteurs ils vont aller sur les zones qui vont être correctement zonées, et pas aller sur la ville d'à côté qui va être B2 par rapport à B1, par exemple, si on parle de la situation
actuelle. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le zonage, justement ?
Le zonage...
Est-ce qu'on supprime le zonage et on se dit qu'on s'y prend différemment ? On revoit la politique du zonage avec un plan ? Parce que ce que dit Marilyn Pécherie est très intéressant, parce que en sous-jacent, si je peux me permettre, vous soulevez le principe de l'aménagement du territoire globalement.
C'est que ça,
vision vraiment globale, pas uniquement territoire par territoire. Avoir une politique long terme, voire même programmatique... Qui pourrait, on en rêve, ça, nous, programmation pour le logement.
On a beaucoup parlé d'aménagement du territoire ces dernières années, une politique qui n'existe plus vraiment, voire pas du tout. C'est-à-dire, on l'a vu ces derniers temps encore plus, quand on voit se resserrer le lien entre les problèmes de développement économique et d'emploi et les problèmes de logement. Quand vous annoncez des arrivées d'entreprises aujourd'hui, même à 3-4 ans, s'il n'y a pas le début d'un projet sur les terrains qui peuvent être aménagés en logement, il n'y aura pas d'habitants sur ce territoire-là supplémentaire dans 3-4 ans, c'est pas vrai. Il nous faut 5 ans, 6 ans aujourd'hui pour sortir un programme quand tout va bien. Quand tout va bien, ce qui n'est pas souvent le cas en ce moment. Donc voilà, il y a cette notion d'aménagement du territoire. Sur le zonage, c'est compliqué, mais moi je crois à une certaine décentralisation, responsabilité à l'aune d'un territoire et qu'on arrête de trop segmenter, comme c'est le cas depuis un certain nombre de temps. Et puis, dernière petite chose, peut-être pour rebondir sur la mixité. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est à l'arrêt, c'est l'accession à la propriété. C'est-à-dire que la décision qui a été prise dans la loi de finances de supprimer le prêt à taux zéro sur l'intégralité de la maison individuelle, tout territoire, sauf dans les dispositifs PSLA, BRS éventuellement, et puis de recentrer sur les zones B1 l'éligibilité au prêt à taux zéro pour les immeubles, pour les accessions en appartement. Aujourd'hui, ça a fini d'achever ce qui était déjà malmené du fait de l'augmentation des taux, du fait de l'augmentation des coûts de construction, etc. Donc on n'a pas de politique d'accession sociale à la propriété. On en a une mineure, on va dire, parce que le PTZ de prêt à taux zéro est toujours possible quand on est en zone en rue, quand on est sur ces notions, mais qui sont... C'est moins de 10 000 logements. Quand vous cumulez aujourd'hui PSLA, BRS, zone en rue en France, on doit être à 10 000, 15 000 logements, grand maximum. Donc c'est quand même pas à l'échelle. Et donc, à partir du moment où on veut parler de mixité et de parcours résidentiel, là, on a cassé quelque chose. Donc c'est toute la chaîne qui est rompue. Les gens qui pourraient sortir du parc locatif social comme privé, d'ailleurs.
Mais justement,
qui est vitréfié, c'est le terme que j'ai employé devant vous plusieurs fois.
Est-ce que le projet de loi Kasbarian, selon vous, comporte des pistes intéressantes pour justement pour optimiser l'accession sociale à la propriété ?
Le projet de loi, on va dire dans son ensemble, ça serait presque une conclusion sur le projet de loi, mais il amène des petites choses qui ne sont pas inintéressantes. Il n'a pas une puissance phénoménale. Donc il ne va rien amener de puissant pour résorber rapidement le problème qu'on a depuis maintenant presque 2 ans. Donc nous, on est en train de déposer un certain nombre d'amendements complémentaires qu'on a travaillé avec le cabinet sur les dispositifs de PSLA, les freins au PSLA, les freins au BRS, au bail réel solidaire, pour voir comment on pourrait travailler. Et puis on porte une idée un peu au-delà du projet de loi, qui est la problématique du prêt à taux zéro et de sa suite. Alors le prêt à taux zéro, pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui réduit? C'est tout simplement parce qu'il peut coûter trop cher à l'État si les taux restent élevés. Donc plutôt que de parler de zéro, on peut peut-être parler de bonifier ou de je ne sais pas quoi, trouver le bon terme. À partir du moment où l'État sanctuarise une dépense budgétaire, mais il va falloir répondre à la question, est-ce qu'on veut accompagner l'accession à la propriété? Voilà, si on, et aujourd'hui, on n'a pas la réponse à cette question.
Ça, c'est une vraie question, parce qu'en fait, c'est le parcours dont il faut parler. Effectivement, l'idée, c'est de donner aussi espoir aux gens, de pouvoir aussi se créer un parcours. Avant, le logement social, c'était un passage. On y passait et après, on se créait un parcours et on pouvait accéder à la propriété. Je pense qu'il y a, un vrai sujet sur la typologie des produits sur le marché. Quand on parle d'accession sociale, on peut aussi, par exemple, locataire pendant 10 ans et puis au bout de la 10e année, pouvoir acheter. Voilà, en restant dans le même logement. Ça, ce sont des vrais produits. Ouais. Et aussi, on donne un espoir aux gens de se créer un patrimoine. Et moi, je trouve qu'on fracture moins la société. Et si je puis me permettre, le projet de loi, pardon, sur le logement, il est quand même, on sent bien aussi, il y a une volonté électoraliste derrière en disant, en répondant à la demande de certains maires qui disent je ne veux pas construire du logement social en fonction des situations des maires. Donc moi, j'incrimine pas du tout mes collègues maires. Simplement, je dis, si on parle simplement de logement, si on parle simplement de logement social, sans parler de parcours résidentiel, sans parler de parcours de l'habitat, on ne répond pas vraiment à la question. On répond à des bouts de questions, comme ça vient d'être dit. Effectivement, il y a quelques aménagements. Il y a beaucoup de gens qui sont très... sur le fait que le maire préside la commission d'attribution, il y a beaucoup de gens qui sont assez dubitatifs en disant que ça peut être dangereux. C'est vrai que ça peut être dangereux, mais il faut le
dangereux dans quel sens?
Il faut le cariner. Bah, les gens ont peur du clientélisme, oui, bien sûr. Donc il faut le cariner correctement. Bah oui. Mais ça serait un quel pouvoir. Et puis effectivement, c'est que sur les logements neufs. Mais moi, j'attire quand même aussi l'attention des fois sur l'incohérence de l'État. Vous voyez, par exemple, on a beaucoup de villes qui sont en rénovation urbaine avec des programmes en rue. Donc en fait, on détruit des logements pour construire d'autres logements. Attention, il ne faut pas reconstruire des poches de pauvreté ailleurs. C'est ça le vrai questionnement. Et d'ailleurs, sur les... vous voyez, la manière de raisonner sur les villes qui sont souvent paupérisées, c'est une manière assez négative. Et ça rentre bien avec ce qui vient d'être dit. Créer un parcours, c'est positif. Un parcours résidentiel, c'est quelque chose de positif. Parler strictement du logement social uniquement et la manière dont on nous parle, c'est assez négatif parce que c'est toujours une connotation négative aujourd'hui. Vous voyez, il y a aussi des quartiers politiques de la ville qui sont sortis des dispositifs. On parle de poches de pauvreté. Moi, j'ai proposé l'autre jour au cabinet du Premier ministre qu'on parle plutôt de quartiers à potentiel parce que, en fait, sinon, on ne permet pas aux gens aussi d'espérer autre chose et on fracture complètement la société. Et je pense que le projet de loi sur le logement, il est beaucoup trop restrictif. Le logement social, c'est insuffisant en soi. C'est le logement en général, l'habitat en général et les typologies de parcours que l'on pourrait créer pour les citoyens. Alors peut-être qu'il y en a qui ne pourront jamais acheter, mais au moins il y en a qui pourront aussi acheter. Et l'accession sociale, elle en fait partie. Il y a 50 ans, moi, mes parents, quand ils sont arrivés sur la ville nouvelle de Sénat, ils ont bénéficié d'un prêt accession sociale, un prêt, ça s'appelait prêt passe à cette époque-là, pour acheter une maison. Mmh. Voilà, tout simplement. Et sans ce type de prêt, ben, ils n'auraient pas pu acheter. Je suis assez d'accord. Si le prêt à taux zéro, on sait que derrière, ça coûte trop cher à l'État, peut-être qu'entre les prêts qui sont aujourd'hui autour de 4%, 3,8%, 4%, et puis zéro, il y a peut-être un curseur à trouver, effectivement.
C'est extrêmement intéressant parce que ça reflète bien l'état global de l'attente que pourraient avoir certains élus locaux entre les pressions démographiques. Vous avez rappelé effectivement que l'attribution des commissions, on est quand même dans un environnement un peu suspicieux à l'égard des politiques, hein, faut aussi le dire.
Trop.
Et donc, à un moment donné, ça commence à devenir compliqué. Voilà, moi j'avais à l'époque été très opposé au problème que les maires ne pouvaient plus être entrés au Parlement, vous savez, les députés maires, parce que je trouve qu'à un moment... Oui, cumule des mandats, mais on peut cumuler deux mandats,
oui.
député et maire, pour... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
On est d'accord là-dessus.
Ah, moi, je suis complètement d'accord.
Ça a franchement du sens, parce que vous avez quelqu'un dans la circo, finalement, qui n'est pas forcément du même bord politique du maire ou autre. Ce n'est pas un sujet. Mais je pense que le maire, avec l'approche terrain que vous avez, être capable de mener un combat au Parlement, ça me semble évident. Une réaction,
oui,
et notamment sur est-ce que vous trouvez, vous aussi, qu'il y a une ouverture sur l'accession sociale ou sur l'accession à la propriété dans le projet de loi?
Non, dans le projet de loi qui est présenté, c'est à la marge, il y a quelques correctifs, quelques petits irritants, et on va essayer d'en pousser quelques-uns, nous, par exemple, sur la location-accession, sur le bail réel solidaire, qui sont des sujets, mais ne croyons pas non plus que c'est ça qui va bouger les choses. Après, le paradoxe dans la politique qui est conduite depuis quelques années sur l'accession à la propriété, c'est que toutes les études et les réseaux ProCivis, et vous le savez, Sylvain, on en sort une tous les ans, assez puissante aujourd'hui, oui, avec plus de 10 000 questionnaires en fin d'année. Toutes les études montrent qu'il y a une aspiration forte à devenir propriétaire, qu'il y a une aspiration forte à devenir propriétaire en maison individuelle. Ça, c'est un élément qu'il faut faire évoluer progressivement, en tout cas trouver la bonne formule. J'ai eu des échanges il y a quelques jours avec la Fédération des caisses d'épargne qui vient de faire une étude à peu près du même niveau, qui confirme les mêmes tendances. Et ce n'est pas du 51-49, c'est du 4, mmh, du 75-25. Donc c'est très puissant. Donc à partir de là, comment est-ce qu'une politique publique, malgré tout, quand même, accompagne les aspirations des gens? Et puis, on a un sujet qui a été mis sur la table avec la réforme des retraites, on l'a beaucoup vu, et c'est un questionnement qui angoisse aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous allez arriver à la période de retraite, entre être propriétaire d'une maison que vous avez fini de régler, de payer, et vous prendre un loyer tous les mois de 6, 7, 800 euros, ça dépend où vous êtes et ce que vous avez, c'est pas la même vie. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui devrait être questionné. Moi, j'espère enfin qu'on aura une campagne présidentielle, c'est dans 3 ans, c'est encore un peu loin, mais ça passe quand même très vite, donc qui répondra à cette question-là, puisque c'est une question qui a été absente depuis trop longtemps aujourd'hui sur la question de l'accession sociale.
Alors, il y a une question que je voulais vous poser sur la simplification notamment, et sur la possibilité, on parlait de l'aménagement. En quoi, Yannick Borde, et je voudrais avoir votre réaction également, Marine Pichery, le permis d'aménager multisite est-il vertueux?
Nous, on trouve que c'est intéressant, parce que ça, d'abord, ça permet d'avoir une logique un peu plus urbaine, qu'une logique un peu one shot ou au coup par coup sur un terrain, le terrain d'en face, etc. Donc c'est plutôt pas mal. On est en train de regarder un peu cette partie-là parce qu'on trouve qu'elle est même un peu restrictive, on pourrait aller un peu plus loin. Et puis après, c'est une confiance dans les élus sur leur capacité à délivrer et à aménager correctement. Et puis dans un partenariat qu'il faut peut-être reconstruire d'ailleurs, hein, dans le contexte économique immobilier qu'on connaît aujourd'hui entre les promoteurs et les élus locaux. J'entendais tout à l'heure, bon, je fais attention parce que des fois je confonds mes deux casquettes, mais j'entendais tout à l'heure le fait que les promoteurs, pour s'en sortir en ce moment, ont plutôt tendance à faire de la vente en bloc. Nous, le réseau ProCivis, on faisait 10 000 logements, 10-11 000 logements en 2022, on en a fait 7 000 en 2023. On a fait très peu de ventes en bloc parce qu'on considère que venir dans un deuxième temps voir l'élu en lui disant « je vous avais promis ça » ou « vous m'aviez retenu ou soutenu » parce que mon programme, c'était l'accession, c'était de la déco. Et puis finalement, j'y arrive pas, donc je fais de la vente en bloc.
Bah, j'y arrive pas, quoi, surtout.
Oui, mais on va pas transformer toute la production en logement social non plus. Donc, attention quand même à ça. Je trouve que c'est une facilité.
Enfin, moi, je me mets à la place du promoteur
qui est désemparé.
Je suis d'accord, je trouve que c'est une facilité quand même.
Il y a quand même. Je trouve que c'est une facilité des promoteurs. Et je trouve qu'il y a une faiblesse de résistance d'un certain nombre d'élus sur le sujet. Parce qu'on n'est pas...
C'est intéressant ce que vous dites là.
Voilà, je pense qu'on pourrait faire un petit peu plus souple, un petit peu plus contraint plutôt.
Marini?
Non, mais ça m'est arrivé, moi, de dire non à des promoteurs. C'est-à-dire qu'en fait, Moi, je rappelle aux promoteurs que si l'élu n'est pas là pour impulser des projets, des programmes, ils n'en font pas. Donc, en fait, à un moment, on ne peut pas systématiquement tout transformer aussi en vente en bloc. Parce que sinon, derrière, finalement, ce qu'on avait voulu faire en termes de mixité sociale ne fonctionne pas. Je suis assez d'accord sur l'idée de dire que c'est systémique. La réponse, elle est systémique. Elle n'est pas simplement finalement, quand on parle du logement social, moi, je trouve qu'on devrait... avoir je le disais tout à l'heure, quelque chose de beaucoup plus évolué, parce que aujourd'hui on répond à un point de détail, mais on répond pas à l'ensemble des besoins, et je ne pense pas que ça améliorera les demandes de logement en France.
Marilyn, justement, dans ce projet de loi Casbarian, il y a des mesures de simplification dont on évoque raccourcissement de délai de recours, permis multisite, etc. Est-ce que cette nature a modifié la politique?
Non, mais en fait, il y a les simplifications théoriques et les simplifications sur le terrain. Moi, je vais donner un exemple qui n'est pas celui qui vient d'être, un de ceux qui vient d'être cité, mais par exemple, les dossiers d'ALO. Les dossiers d'ALO, quand même, c'est très... Moi, ça m'interroge beaucoup. D'abord parce que les gens pensent que quand ils déposent un dossier d'ALO, ils sont prioritaires, ils vont avoir un logement beaucoup plus rapidement et tout de suite, ce qui est faux en réalité, parce que ça dépend du nombre de logements possibles, de la taille du logement. Et puis souvent, ils attendent un peu plus, aussi longtemps que d'autres, et ils ne comprennent pas. Et en plus, ce sont des dossiers souvent fragile, et les préfectures les flèchent sur les villes où il y a du logement social. Donc je trouve que, par exemple, vous voyez, il faudrait se réinterroger sur ces fameux 10 dossiers d'ALO, parce que est-ce que quelque part on ment pas à des gens qui sont déjà en difficulté en leur faisant croire qu'ils vont avoir accès à un logement plus rapidement, et dans les faits c'est pas vrai. Donc c'est pas toujours vrai, une fois où ça fonctionne, une fois où ça fonctionne pas. C'est, si vous voulez, c'est ça, il faut se méfier des annonces aussi qui sont faites, qui laissent rêver sur un certain nombre de situations. Et
donc
quand
pour
on,
vous, le
on
fait
s'aperçoit
que
dans la théorie, il y a
dans
la théorie
le
mystique, la
je vais raccourcir les délais de recours, je vais autoriser la possibilité pour les maires d'avoir des permis multisites.
Moi, j'attends de voir.
Voilà.
Honnêtement, moi, j'attends de voir.
Oui, après, sur tout ce qui peut faciliter les choses d'un point de vue...
C'est vrai que ça s'entend plutôt bien.
Oui,
on
va difficilement être contre une idée comme
On peut pas.
Voilà. Après, je suis d'accord. C'est voir comment c'est compris sur le terrain, comment c'est traité par les services de l'État quand ils ont à aborder ces questions-là, et comment ça redescend. Maintenant, c'est des mesures qui peuvent nous simplifier la vie. La question des recours, c'est un vrai sujet. Nous, on va un peu plus loin sur les recours. On en reparlera peut-être, mais... On essaie d'aller un peu plus loin sur la question des recours, notamment quand ils ont un caractère abusif. Quoi. Aujourd'hui, il va falloir montrer un peu les dents. Alors,
justement.
Tout simplement, c'est-à-dire vous avez plusieurs graduations. Il y a le recours gracieux. La commune répond en disant, mais non, monsieur, permis, il est conforme au PLU, le permis, il est conforme, voilà, il n'y a pas de problème. Bon, ça ne convient pas, la personne fait un recours contentieux. Si le recours contentieux, il est jugé. Alors, tout le monde a le droit d'attaquer une décision administrative, donc on ne va pas mettre ça en cause. Mais si le recours contentieux, il est jugé une première fois... annulé ou en tout cas contrarié sur les mêmes motifs que le recours gracieux, à un moment donné, quand vous avez...
dire qu'on peut supposer, comme il avait été annulé sur le recours gracieux, que c'est abusif.
À un moment donné, surtout si après il y a l'opération d'appel, au bout d'un moment, alors l'appel c'est un droit, donc on peut difficilement envisager de supprimer, mais voilà, tous ceux, et moi j'en fais partie, qui ont eu des recours en 2021, qui se retrouvent aujourd'hui avec des opérations qui finalement arrivent à sortir parce que les recours étaient entre guillemets abusifs. L'équation de l'opération de 2024 par rapport à ce qu'on a imaginé en 2021, ça n'a rien à voir. Donc on est tous en difficulté là-dessus. Donc moi, j'ai jamais perdu un recours. Je ne devrais peut-être pas le dire, ça va me porter la poisse pour la suite, mais j'ai jamais perdu un recours parce que mes dossiers, ils respectent les PLU, ils sont négociés avec les villes, voilà, ils essayent d'être le plus propre
possible. Est-ce que vous les voyez, vous, les recours abusifs à Saint-Berthevin, vous avez vu ?
À Saint-Berthevin, pour l'instant, non. Mais sur la région Pays de la Loire, où j'interviens en tant que promoteur, oui. Et on n'en a jamais eu autant que ces deux dernières années.
Et vous, Marilyn ?
Alors nous, on n'a pas eu de recours non plus. Mais en fait, ce qui vient d'être dit, c'est intéressant parce que ça démontre aussi le courage de construire. C'est-à-dire qu'il y a en même temps, vous avez les gens qui vous demandent des logements et en même temps, ceux qui ne veulent pas qu'on construise. Parce que dès que vous construisez un nouvel immeuble, parce qu'aujourd'hui, le questionnement aussi, il y en était question aussi, de l'accession en appartement, elle est essentielle aussi, parce que la maison individuelle, c'est compliqué. Et puis, dans la maison individuelle, il y a tout l'entretien qui va avec, il y a le vrai fonctionnement du quotidien dans une maison individuelle. Et finalement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a la volonté... moi, je crois que construire aujourd'hui, pour un maire, c'est courageux. C'est pour ça qu'il y en a certains qui considèrent qu'ils ne vont pas construire. Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas courageux, mais en fait, ils n'aident pas les maires courageux. Parce que finalement...
Les fameux maires bâtisseurs.
Et alors, parlons-en des maires bâtisseurs. C'est-à-dire que les maires qui bâtissent, ce serait bien aussi que financièrement, leur collectivité soit accompagnée.
Je suis tout à fait d'accord.
Moi, je trouve que ça nous manque quand même un petit peu aussi. Et puis, tout à l'heure, on parlait des élus. Et de la place des élus, par exemple, dans une commission d'attribution de la présidence. Il y a quand même, on en parlait tout à l'heure à l'Assemblée générale de la MIF, quand même une grosse et forte présomption de culpabilité. Les élus n'ont pas la présomption d'innocence, hein. Ils ont la présomption de culpabilité. Et je trouve que ça, c'est quand même pas très juste, parce que la majorité des maires en France, puisqu'on parle beaucoup des maires, franchement, ils se donnent vraiment beaucoup de mal. Ils se décarcassent chaque jour dans le quotidien. Ils mettent en stand-by un certain nombre de choses au niveau privé. Il y a une présomption de culpabilité. Et comme le dit très bien le président de la MIF, hein, on est souvent à portée de baffe. On l'accepte. Oui. Mais ce serait bien que parfois on soit aussi aidé sur Baudet le système de fonctionnement.
Stéphane utilise une terminologie que j'ai trouvée très intéressante hier. Il dit finalement un maire, c'est un maire qui gère une somme d'égoïsme. D'égoïsme. C'est très intéressant.
En tout cas, les intérêts particuliers, la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général, ça c'est certain. Ouais.
Alors, justement, quel impact pour le mouvement HLM ? Je voudrais vous poser la question, Yannick. Pourquoi la vente HLM s'est devenue un enjeu clé pour les bailleurs ?
La vente HLM, d'abord, ça fait partie d'une politique. Ça peut aussi faire partie d'une politique d'accession sociale. Ça a été évoqué tout à l'heure. La loi Elan est quand même passée par là sur la RLS, hein, la réduction locative de solidarité, qui a prélevé quand même 1,3 milliard par an depuis 2018 sur le monde HLM. Donc, c'est un modèle. À l'époque, on pouvait encore se dire que ça pouvait être absorbable parce qu'on n'avait pas la crise énergétique qui était passée par là. On n'avait pas les taux d'intérêt qui avaient flambé. Aujourd'hui, je pense que si on était resté sur les critères macroéconomiques de 2018, peut-être qu'on n'aurait pas la même réponse aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas le cas. Et donc la vente HM, elle est devenue cruciale pour les organismes HM, pour se reconstituer des fonds propres, pour réinvestir. Et c'est aussi mécanique que ça, c'est-à-dire que c'est un raisonnement de société foncière. J'arbitre, j'ai un patrimoine, j'en ai un qui est rentable, j'en ai un qui est moins rentable. Ouais. J'ai des clients, des locataires qui sont potentiellement capables d'acheter le logement. Mmh. Est-ce que j'y vais? Comment je réarbitre ce patrimoine? Voilà, donc c'est une gestion qui est c'est un peu une remise en cause quand même pour beaucoup d'organismes HLM dans la réflexion. C'est une gestion qui est un peu différente, peut-être plus dynamique entre guillemets de la gestion du patrimoine en matière de détention. Et puis c'est une solution aujourd'hui, une des rares solutions qui leur reste pour reconstituer de façon assez massive une partie de leurs fonds propres par rapport aux besoins qui sont sur la table.
Marine, je complète la question pour la réaction. Comment vous accueillez les mesures en matière de mobilité du parc social, notamment, comment on dit ça, la revoyure du droit au maintien des locataires dans le parc ?
Alors, là aussi, il y a la théorie et la pratique.
On a l'impression qu'on va chasser... Enfin,
oui, mais là, il y a la théorie et la pratique. Il y a plusieurs choses. D'abord, je partage effectivement... L'accession sociale, ça peut être aussi proposé à l'achat à des locataires qui ont les moyens d'acheter le logement dans lequel ils sont et auquel ils tiennent, de pouvoir l'acheter. Il y a des conditions qui sont souvent plus intéressantes, d'une part. Et puis, d'autre part, ça permet de reconstituer une surface financière qui a été perdue par les organismes HLM. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, ça fait bien sur la cheminée de dire, on va dire aux gens, il n'y a plus le maintien du logement social à vie.
Oui.
Ça fait bien de dire comme ça.
Il y a un côté presque électoraliste.
Alors je trouve presque beaucoup. Et je trouve que en fait, c'est de nouveau fléché de manière négative le logement social. On pourrait, quand je parle de parcours résidentiel, on pourrait imaginer effectivement, bien sûr, quand vous avez deux personnes qui sont dans un F5, vous avez des gens, ils ont eu 3-4 enfants, ils ont eu un F5 par exemple il y a 30 ans, aujourd'hui ils ne sont plus que deux, il n'y a plus que le couple. Donc vu comme ça, on pourrait dire, ah mais oui, mais c'est pas juste parce qu'ils ont un F5. Sauf que il y a le côté humain et puis il y a le côté pratique. Hein. Évidemment, dire comme ça, lancer à la volée en disant, mais qui va s'occuper de dire à la personne qu'en fait elle va partir de son logement ? Qui ? L'organisme HLM, le maire ? Enfin, je pose la question, premièrement. Deuxièmement, ces personnes-là, elles ont vécu toute leur vie là, elles ont toute leur histoire. Donc, en fait, effectivement, on peut peut-être accompagner, mais à ce moment-là, il faut l'accompagner en disant, voilà, on peut vous proposer un logement plus petit, qui est plus adapté, qui est mieux adapté en termes énergétiques aussi, parce que quand ce sont des logements qui ont 30 ans, 25 ans, ils sont moins adaptés pour, sur les dépenses de flux d'aujourd'hui. Donc ça peut s'entendre. Mais il y a un petit sujet financier quand même. C'est que lorsque, admettons, vous avez une famille qui dit « Oui, moi, je veux bien, je comprends, c'est trop grand d'entretien pour moi, je veux bien prendre un F3 ». Sauf que quand ils avaient 100 mètres carrés, aujourd'hui, pour un F3, ils vont payer plus cher de loyer. C'est une réalité du marché. Donc évidemment, si vous avez des gens qui ont des revenus assez limités, ils vont vous dire « bah moi, je préfère rester dans le logement ». Donc là aussi, c'est un effet d'annonce, mais c'est beaucoup plus complexe dans la réalité. Et puis, il y a aussi l'aspect humain. C'est-à-dire qu'on est en train de dire à des gens qui ont été pendant 30 ans dans un logement, sortez, il n'y a plus rien à voir. Donc ça s'accompagne. On peut aussi accompagner, et y compris dans l'accession. On voit bien qu'il y a des, par exemple, moi dans ma vie, j'ai souvent des femmes seules qui sont arrivées, elles sont seules aujourd'hui parce qu'elles sont veuves, elles sont dans des pavillons qu'elles n'arrivent plus à entretenir. On pourrait imaginer des choses, mais il faut des produits qui correspondent aux besoins de ces populations. Et ce qui est une réalité aujourd'hui sur le marché, c'est qu'un F3 que vous construisez aujourd'hui coûte plus cher en termes de loyer qu'un F5 d'il y a 30 ans. Ça, c'est une réalité. Donc, qui va aller payer plus cher une surface
plus petite ? C'est une évidence absolue. C'est intéressant parce que là, du coup, ça met une réaction.
Oui, sur cette question-là, effectivement, quand on présente la chose en disant un couple qui est dans un type 5 logement social ou un couple qui est rentré dans le logement social il y a 10 ans, qui aujourd'hui gagne bien sa vie, qui est encore, effectivement, ça s'entend. La question mérite d'être posée. Et nous, en tant que vice-président de l'USH, moi, je pense qu'il ne faut pas l'occulter. Il faut voir comment on la traite. Il y a le surloyer, il y a tout un tas de choses. Donc, l'idée, elle est... Enfin, la question, elle est entendable. Après, c'est la transformation de tout ça qui est importante. Ouais. Aujourd'hui, se dire on veut favoriser la mobilité dans le logement alors qu'il y a une crise du logement, c'est un leurre. C'est-à-dire, même si on voulait pousser les gens dehors en leur disant débrouillez-vous, vous avez 6 mois pour trouver un logement, de toute façon, il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas de logement. Donc, c'est compliqué de trouver une formule par rapport à ça.
Sauf à les mettre à la rue.
Oui, mais ça, je pense que
tout le monde, je pense.
Tout le monde l'exclut. Et puis, l'autre élément, et je reviens un peu sur peut-être des évolutions qui vont être nécessaires au niveau des bailleurs sociaux. Tout à l'heure, quand on évoquait l'avantage HLM, la gestion de patrimoine, dans l'équilibre d'un bailleur social. Aujourd'hui, quand vous rentrez quelqu'un dans un logement social existant, vous rentrez plus modeste que celui qui sort. Donc, dans la gestion d'un bailleur, il faut aussi comprendre que soit on en fait des outils qui gèrent que les gens très modestes, et il va falloir changer un certain nombre de règles de gestion, soit on en fait des outils de gestion sociale et de mixité sociale, dans lesquels il doit y avoir les très modestes, parce qu'il faut bien les loger, et c'est au monde HLM d'en loger une grande partie, et puis peut-être des gens un petit peu plus aisés, ou en tout cas dans le haut des plafonds HLM, de façon à ce qu'on ait aussi un équilibre de population qui fasse que pour l'exploitation et pour la gestion du bailleur social, il y ait une certaine sécurité. Parce que sinon, c'est un autre modèle. Donc c'est assez compliqué. La question, elle est complètement entendable. La réponse, elle est loin d'être évidente, au-delà des dogmes de pas vouloir la traiter, parce que je pense qu'il faut quand même la regarder.
C'est très clair. On va conclure justement sur un peu de perspective et de prospective. Si je devais vous répondre, vous poser la question, alors vous, avec la double casquette promoteur-maire, on a évoqué les contours de la loi. Est-ce que vous pourriez, en essayant de dresser le portrait ou l'ossature de cette loi, dire finalement qu'est-ce qu'il faudrait y ajouter très concrètement ou très pragmatiquement pour que ça puisse donner du corps à un projet de loi dont on l'a vu, il est difficile d'être contre, on l'a vu sur les accès, se pose la question du financement, et comme le rappelait très justement Marine Picherie, et ensuite il y a la réalité, parce que derrière les mots, il y a quand même des personnes qui vont devoir l'appliquer.
Nous, ce qu'on dit, c'est que, un, cette loi, ce qui est dedans n'a rien de pénalisant, par contre, il n'y a rien de puissant, première chose. Deuxième chose, le secteur,
c'est donc un
secteur...
Pour vous, c'est poussif, quoi.
Oui, c'est quelques irritants, quelques petites choses qu'on va corriger, mais voilà. ça va s'arrêter là. La deuxième chose, c'est qu'on est sur un secteur d'activité, nous, qui est un secteur de long terme. Donc, on a besoin de clarté, de lisibilité, de durée. Donc, on n'est pas en train de faire... Il faut qu'on arrête de faire le yo-yo, le stop and go sur tout un tas de mesures, premièrement. Deuxièmement, c'est de répondre à la question que je posais tout à l'heure sur l'accession sociale. Est-ce qu'on veut que le parcours résidentiel soit à nouveau possible ? Dans ce cas-là, il faut se remettre autour de la table sur le prêt à taux zéro, ou ce qui pourrait être un substitut au prêt à taux zéro. Il faut qu'on nous dise très rapidement qu'est-ce qu'il y aura après le Pinel. Il n'y aura rien, il y aura quelque chose. S'il y a quelque chose, c'est quoi ? On comprend bien que ça sera moins puissant fiscalement, personnellement, et pour le réseau que je préside, ça pose aucun problème. Sauf qu'on aimerait bien savoir ce qu'on a après ou pas, parce que ce qu'on regarde aujourd'hui comme opération, de toute façon, ces opérations maintenant qui arriveront au mieux l'année prochaine. Donc on a besoin de ça. Et puis j'oublie pas, autant, vous savez, on est assez critique, voire inquiet sur la façon dont la construction neuve a été accompagnée depuis 2017, autant on reconnaît que sur le parc existant, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites entre MaPrimeRénov, le programme initiative copropriété, etc. Mais là aussi, on a besoin de stabilité. Il nous manque encore un ou deux outils qui sont en plus des outils sans dépenses budgétaires, très clairement, qui sont plutôt des outils d'assemblage que des outils financiers, pour arriver à accélérer une bonne fois pour toutes la transition du logement et la réhabilitation du parc existant. Parce que l'empreinte énergétique de la France, 80% des logements qui seront là dans 30 ans, ils sont construits aujourd'hui.
Absolument.
Donc si on ne s'en occupe pas, on aura un petit problème plus compliqué. Voilà. Donc c'est au-delà d'une petite loi, je veux dire, avec des petits points traités, sans pour autant retomber non plus sur une loi Elan qui faisait rentrer trop de choses et qui, au bout d'un moment, devient incompréhensible.
Marine Pécherie.
Première chose, c'est la création de parcours résidentiels. Moi, je pense qu'on ne peut pas y échapper. C'est une stratégie d'habitat et pas simplement une stratégie de logement. Et vraiment, interroger les élus qui sont sur le terrain, qui sont confrontés tous les jours, pour faire un projet de loi qui corresponde aux besoins du terrain. Sinon, on peut en faire un cette année, en refaire un l'année prochaine, en refaire un dans 2 ans, avec parfois des effets d'annonce qui font bien, mais qui ne répondent pas vraiment à la question et qui parfois compliquent encore plus la vie des maires. Je pense que c'est la réalité, elle est là. Nous, on a besoin de cohérence et on a besoin, comme ça vient d'être dit, d'être sécurisé. Et le marché aujourd'hui n'est pas du tout sécurisé. Donc le marché n'est pas sécurisé, les maires ne sont pas sécurisés, les organismes HLM ne sont pas sécurisés. Et donc en bout de chaîne, c'est les habitants qui ne sont pas sécurisés.
C'est très clair. On va conclure. Oui, vous voulez ajouter ? Oui. On va conclure cet opus donc, du sens de l'immobilier, très intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sens dans ce que vous dites et donc on est carrément dans l'ADN de cette émission. Je vous propose un jeu, Metal Levy, comme d'habitude, je vous l'avais fait à l'EPA de Sénart, vous vous rappelez. Je vais vous demander à chacun, pour sanctionner finalement tous ces propos extrêmement intéressants autour du projet de loi Kasbarian, un mot, un adjectif qui vous viendra à l'esprit pour illustrer le propos très spontanément.
Confiance.
Par vous. Confiance. Très adapté. Marine Pichon.
Le même, confiance.
Voilà. Si on veut rétablir la confiance, encore faut-il aussi avoir confiance dans l'État, les collectivités locales et surtout replacer l'élu au cœur des préoccupations. Parce que une des choses que l'on peut dire dans ce cadre-là, c'est qu'on a l'impression, je dis bien qu'on a l'impression, que ce nouveau gouvernement commence à s'intéresser un peu plus aux élus locaux. Y a-t-il une vue électorale derrière, selon Marilyne Pichery, c'est sans aucun doute.
Je ne dirais pas ça, mais j'attends de voir. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, c'est la formule. Hein.
Oui.
Chat échaudé. Hein.
Oui,
moi, j'attends
absolument.
De voir. J'attends de voir. Par contre, je voudrais qu'on respecte vraiment les élus parce que le non-respect des élus par l'État fait que les citoyens ne respectent plus les élus. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce repère et ce respect vis-à-vis des élus. Et on a toujours l'impression qu'on...
D'ailleurs, vous avez vu les statistiques du nombre d'élus. Vous savez qu'on est en Ile-de-France, on a fait les statistiques d'élus, vous savez, qui ont jeté l'éponge en cours de mandat.
Ouais, mais il ne faut pas jeter l'éponge. Je ne jetterai pas l'éponge.
Vous savez qu'on a atteint déjà 100% des statistiques que l'on avait sur un mandat complet de la
présidence. Mais parlez aussi de tous ceux qui ne jettent pas l'éponge,
oui.
qui y croient et qui se battent.
Oui.
Mais
ça prouve qu'il y a certains élus désespérés.
Mais non, mais il ne faut pas. Le désespoir, c'est un mauvais conseiller. Un mauvais conseiller, pardon. Le désespoir, c'est un mauvais conseiller.
Je reconnais bien l'enseignante.
Hein. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut pas. Si nous, on est désespérés, alors que souvent, les gens. Quelle est la dernière porte à laquelle ils viennent taper? C'est la mairie. Donc s'ils sentent que leur mère est désespérée, on va les désespérer eux-mêmes. Donc, certainement pas. Non.
Confiance.
Restons positifs.
Confiance. Confiance et positivité. C'est un vrai plaisir de vous avoir tous les deux sur le plateau. Extrêmement intéressant avec la vision que vous avez et ce qui nous frappe. Bien évidemment, c'est aussi la compétence que vous avez et la qualité technique que vous avez dans votre approche, qu'elle soit politique ou pragmatique. Merci Yannick Borne, président du réseau Procivis, maire de Saint-Berthevin. Un immense merci. merci à Marilyn Pichery, présidente de l'EPA de Sénart et maire de Savigny-le-Temple. Juste une chose, ne changez rien tous les deux. Continuer comme ça. Voilà, cette émission est à récupérer sur les plateformes de podcast, comme d'habitude, les amis, pour le sens de l'immobilier. On va se retrouver pour un nouvel opus du sens de l'immobilier. On se retrouvera d'ailleurs très certainement au congrès de l'USH, parce que nous avons un plateau, c'est historique, c'est même une tradition, sur le stand de Procivis. D'ici là, prenez soin de vous.
Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis, à retrouver sur les sites de Radio Immo et Radio Territoria. We'll be right back.